C'est beau de proclamer qui est notre Dieu, ce Dieu qui est saint. Je suis toujours frappé dans ce chant, on dit que les anges proclament, que l'univers proclame, et chaque fois je me dis, et nous ? Est-ce qu'on proclame aussi de cette manière, tu es saint ? Et la deuxième question que je me pose quand je chante ce chant, c'est quoi le cantique nouveau ? On chante un cantique nouveau. Alors on sait qu'il y en a régulièrement des nouveaux au culte, mais le cantique nouveau que nous sommes appelés à chanter, c'est lequel ? Et j'espère alors que je vais vous donner des éléments de réponse au travers du texte, et j'aime bien dire cela, qu'on m'a imposé. Mais avant... La dernière fois, je vous ai demandé si vous étiez mature. Personne n'a levé la main. J'ose une autre question. Qui est heureux ? Ouf. Qui est sel et lumière de la terre ? Un peu plus complexe, hein, ensemble. C'est bien de lever la main. En tant que peuple de Dieu, nous devrions tous lever la main à qui est heureux et qui est sel et lumière. Parce qu'en fait, Dieu ne nous pose pas la question, il l'affirme. Et le sermon sur la montagne commence par ces deux affirmations. Vous êtes heureux, pas vous allez le devenir, pas en fonction des circonstances. Vous êtes heureux. Quelles que soient les circonstances, parce que vous avez une espérance incroyable en Dieu. Et ensuite, il affirme, vous êtes sel et lumière. Pas devenez sel et lumière. Pas éventuellement, en fonction des contextes, vous allez être. Non, vous êtes. Et votre devoir, alors, c'est que le sel reste sel et qu'on voit la lumière. Mais vous l'êtes. Et c'est ça. Et c'est comme ça que commence le sermon sur la montagne. C'est ça, quand on se pose la question, aujourd'hui c'est très à la mode de se poser la question sur notre identité, et bien la voilà. Jésus, au début du sermon sur la montagne, affirme notre identité. Heureux est celle et lumière. Alors on pourrait dire que, parce qu'on réfléchit toujours d'abord de manière individuelle, est-ce que je le suis vraiment ? Mais Dieu, il s'adresse, enfin Jésus sur le sermon sur la montagne, il s'adresse à une foule. Vous êtes heureux. Vous êtes le sel et la lumière de la terre. Donc individuellement, certainement qu'on l'est, mais aussi en tant que communauté, nous sommes heureux. Aussi en tant que communauté, nous sommes sel et lumière. Et ça, ça pose d'autres questions. Comment ensemble on est heureux ? Comment ensemble on est sel et lumière de la terre ? Et le ensemble, c'est peut-être pas juste en plus que la communauté de Cossonay évangélique. C'est comment tous nous sommes sel et lumière. Et la dernière fois, ça fait bizarre de dire, Matthieu a terminé, donc Matthieu le pasteur a terminé Matthieu l'évangile, en nous disant qu'on était catadioptres. Et le verset 16 dit cela, « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient aussi vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, un, on est heureux, deux, on est sel et lumière, et c'est parce qu'on est cela que les gens vont voir nos œuvres bonnes. Pas tes œuvres bonnes, nos œuvres bonnes. C'est donc bien briller ensemble qui va permettre au monde de voir le sel, enfin de goûter plutôt le sel et de voir la lumière. Et là, je continue l'évangile de Matthieu, verset 17. Jésus, il va dire, alors, comment ? Ne pensez pas que je sois, je vais lire là-haut, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, Pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi, des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. J'attends la suite. Mais, suspense, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce qui se passe ? Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je te dis, en vérité, tu ne sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la. Et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Jusque-là, ma lecture. Vous êtes heureux, vous êtes sel et lumière, et grâce à vos œuvres bonnes, le monde entier va le voir. Alors pourquoi cette suite ? On aime à dire que le texte du Sermon sur la montagne est un texte fondateur, et je suis totalement d'accord avec ça. Jésus est en train d'affirmer à la foule, comme je l'ai dit, l'identité du peuple qui l'attend. Finalement, il est en train de recréer l'humanité, si on ose dire ça comme ça, et il leur dit finalement, c'est ça l'humanité, c'est être sel, c'est être heureux, c'est être lumière. Et permettez-moi de faire une petite interaction avec des dynamiques de groupe. En général, un groupe, quel qu'il soit, il a une identité. Cette identité se traduit dans des valeurs, et ces valeurs se manifestent par des règles. N'est-ce pas ce que Jésus essaye tout simplement de nous dire ? Vous avez une identité, je crois que vous l'avez compris. Il y a une valeur forte qui est mentionnée dans ce texte, c'est la justice. Je pourrais même dire la justice sociale, parce que tous les exemples qu'il va prendre, c'est comment être en relation les uns avec les autres. Et il dit même, si vous n'avez pas une meilleure justice que les scribes, ben vous n'entrez pas dans le royaume. Donc la justice semble être quelque chose d'important dans ce texte, hein, au verset 20. Comment vivre ensemble ? Et tout cela, ben ça se traduit par des règles. Et ils vont mentionner une série, hein, et là j'en ai lu que trois, et il y en a toute une série après. On a une identité, il y a une valeur forte que Jésus attend, c'est la justice, visiblement. Et ça, ça va se traduire par des règles, c'est-à-dire comment bien vivre ensemble. Alors, il faut être clair, c'est bien parce qu'il y a ces trois choses que ça va être lumière, que ça va être sel, Souvent, on travaille l'identité, mais on oublie les règles. Ou alors, les scribes, ils avaient beaucoup les règles. Et puis, on réfléchissait moins peut-être à l'identité ou à la valeur. Souvent, on met un accent sur une chose ou l'autre. Jésus met l'accent sur les trois. Vous êtes, il y a une valeur que j'attends, et voilà comment ça se vit. Et il pose les règles. Le problème des scribes, comme je l'ai dit, hein, c'est qu'ils mettaient que des règles. Ils comptaient, on dit en général, 248 commandements et 365 interdictions. Ils avaient de quoi occuper leur année pour suivre leurs règles à eux. Mais pour eux, la règle devient la norme. Ça devient le fondement, ça devient ce qui est essentiel à faire. Et j'espère que vous entendez bien parce qu'on critique beaucoup les scribes. Mais je pense que c'est le problème de toute l'humanité. Il suffit de faire ça et c'est bon. Je suis la règle. Il suffit de voir nos sociétés, nombre de règles qu'on nous pose et on les applique et on ne sait même plus pourquoi. Mais il faut faire, il faut que ça soit juste. Ça fait partie intégrante de notre humanité. Et puis on a de la peine avec les règles. Dieu, au début, en a posé une, on n'a même pas été capable de la suivre. Parce qu'on n'a peut-être pas compris le sens tout au début dans la Genèse de pourquoi cette règle était là. Et Jésus, il vient, il dit, ben, sachez que ce n'est pas parce que vous êtes cela, ce n'est pas parce que je demande une valeur que je suis venu abolir la suite. Les règles sont toujours nécessaires. Je ne suis pas venu abolir, on devrait dire, je suis venu remplir. Je donne le total sens à ces règles qui sont là et qu'il est nécessaire de vivre. Alors, je vais encore souligner... pour bien que vous compreniez cette transition, parce que souvent, quand j'ai entendu le sermon sur la montagne, on s'est beaucoup arrêté sur les règles, comme quoi, hein. Mais j'ai peu entendu sur cette question, pourquoi ce début, pourquoi la justice, pourquoi il met ça tellement en avant. Et en Exode, si vous êtes en Exode 35, on est en train de construire le tabernacle. Je ne sais pas si vous, ceux qui lisent le guide... on est en plein dedans, et franchement, à part une série de règles de comment faire, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, il y a deux versets fondamentaux, 35, 5, 4 et 5. Moïse parle à toute la communauté des fils d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel a commandé, donc voilà ce que tu vas faire. Prends sur ce qui t'appartient un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée par l'Éternel. » Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Un, il y a une règle. Tu vas donner, mais deux, c'est celui qui a un cœur généreux. C'est celui qui est habité par la générosité qui va pouvoir prélever et donner. Ce n'est pas juste prendre l'argent et donner, c'est bien parce qu'il y a quelque chose en toi qui t'habite, qui est fort, qui fait que tu vas suivre cette règle avec le sens. Et du coup, ça sera de la justice. Pourquoi ? Parce que ton cœur généreux donne de l'argent qui va permettre à la communauté de construire ce tabernacle. Les valeurs fortes. Le tout. Et ces deux petits versets en Exode 35 sont juste fondamentaux parce qu'ils nous rappellent finalement ce pourquoi les règles sont là. Le deuxième élément que j'aimerais pour ressouligner toute cette partie, c'est moins biblique, mais je vais rester dans les dynamiques de groupe. Ce que je trouve intéressant, c'est quelqu'un s'est posé la question finalement, pourquoi on suit des règles? Pour quelles raisons, à un moment, on les suit ou on ne les suit pas? Et finalement, cette personne voit trois éléments, et vous allez voir, à mon avis, ça explicite un tout petit peu ce qui est appelé pour nous et ce que Jésus est en train de faire. Le premier élément, c'est on veut être dans la norme, la normalisation. Hein. Donc je suis la règle parce que surtout, je ne veux pas l'enfreindre, je veux être bien, voilà. Je vais sur un terrain de foot, je ne sais pas à quoi sert ce sport, mais visiblement il y a des règles, on ne peut pas prendre avec les mains, sauf un là qui est devant des filets, il peut prendre avec les mains. Donc je regarde les règles et je les applique parce que je ne veux pas me faire jeter du terrain. Donc je le fais, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Pourquoi il joue qu'avec les pieds? C'est tellement plus simple avec les mains. J'en sais rien, mais c'est comme ça. Voilà, donc j'applique des règles, tout simplement, sans comprendre. Et beaucoup ont fait comme ça. Le deuxième, ce n'est pas la norme, c'est je me conforme. C'est-à-dire je vais un peu plus loin. Tout d'un coup, je me dis, mais s'ils jouent à ça, on a presque l'impression qu'ils aiment ce sport. Donc, j'ai envie aussi d'aimer ce sport. Donc, je vais me conformer, je vais chercher à comprendre pourquoi ils aiment ce sport et pourquoi, finalement, il joue qu'avec les pieds, visiblement ça a du sens, donc j'essaie de me conformer un peu plus, je vais un peu plus profondément. Et la troisième étape, c'est je m'identifie totalement, je suis un fouteux. Je mange foot, je bois foot, hein. Ça va être incroyable, c'est quoi, le 19 juin ? Alors là, je vais tous les jours, jusqu'à 4 heures du matin, voilà. Je m'identifie totalement. Mon être accepte les règles, accepte les valeurs. Et finalement, quand on est chrétien, on doit sans arrêt se poser la question, est-ce que j'applique simplement parce qu'on m'a dit que je devais appliquer ? Est-ce que je comprends le sens et j'essaye d'aller un peu plus loin ? Ou est-ce que finalement, je suis heureux, je suis sel et lumière, je suis chrétien et ça fait partie intégrante de ma vie. C'est un tout. Et Jésus, c'est là-dessus qu'il est en train de travailler dans le sermon sur la montagne. Et le troisième élément se trouve dans le texte lui-même, c'est au verset 19. Celui qui mettra en pratique et enseignera. J'aime bien, il y a les deux. Celui qui met en pratique et qui enseigne. Pour pouvoir transmettre, il ne faut pas simplement connaître. Ou alors, il faut connaître dans le sens strict du terme. Ce qu'on appelle la pratique, ce n'est pas simplement travailler avec ses mains. Ce qu'on appelle pratique souvent dans la Bible, c'est être capable d'appliquer une règle en comprenant son sens pour l'adapter aux situations dans lesquelles je suis. Ce n'est pas l'application bête. Je comprends le sens, donc je suis capable de l'appliquer dans une situation ou dans une autre, en me disant, il y a peut-être. Ça, c'est la pratique. Et enseigner, ce n'est pas simplement ce que je suis en train de faire maintenant, ça, c'est la partie facile. Vous allez retenir 0,4% de ce que je vous dis. Enseigner, c'est révéler des vérités par notre vie. C'est ça qui est attendu. Un, je mets en pratique, je comprends les règles et je sais les appliquer. Et deux, je suis capable de transmettre par ma vie entière. Donc Jésus dit, vous êtes heureux, vous êtes sel et lumière. Et par cette identité, ces œuvres bonnes que vous allez faire, par cette justice qui va être plus forte que celle des scribes, eh bien, vous allez être un témoignage pour les gens. Deux conclusions à ce stade, et après on s'attaque aux règles. Dans le royaume de Dieu, l'enseignement n'est pas simplement ce que je sais, c'est ce que tu vis, et c'est ce que tu vis qui va devenir ce que tu transmets. Ce n'est pas ce que je sais, c'est ce que je vis, et c'est ce que je vis qui va être transmis. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Et la deuxième conclusion, c'est une phrase que j'ai lue, qui m'a beaucoup marqué, qui dit « La seule manière de voir l'Évangile dans ce monde, c'est une communauté, pas des individus, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui croient profondément et qui vivent selon l'Évangile. » La seule manière de voir l'Évangile dans ce monde, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui croient en Christ et qui vivent selon l'Évangile. Et Jésus, dans le sermon sur la montagne, ne dit, à mon avis, rien d'autre. Donc la suite des versets, il va prendre des exemples pour expliciter un tout petit peu. C'est les versets 21 à 48, moi je me suis arrêté au 32. Et il y a cinq thématiques. Et moi je suis toujours frappé quand on parle des thématiques, on prend toujours la règle. Ça parle de l'adultère, ça parle du meurtre et ça parle de la répudiation. Non, ça c'est la règle. En fait, ça parle de la colère, ça parle de la convoitise, ça parle des propos mensongers, ça parle de la vengeance, ça parle de la haine de l'ennemi. C'est ça les thématiques. Et c'est facile de dire adultère, parce que du coup on sait, bah, je ne l'ai pas fait, donc je regarde un qui l'a fait, pas bien, oui, mais la thématique c'est la convoitise. C'est un peu plus compliqué. Il ne suffit pas d'appliquer la règle, il faut encore en comprendre le sens. Donc je vais m'arrêter sur colère et convoitise. Et je ne sais pas si ça vous a frappé ce texte sur la colère, hein, parce que moi je trouve toujours rigolo, on se dit « Ah, du coup, je n'ai pas le droit de dire imbécile. » Mince, nombre de fois que je l'ai dit, ah, ça y est, je mérite l'enfer, quoi. Ben moi, ce que je découvre en lisant ce texte, c'est le parallèle avec Caïn et Abel. À peine Dieu a créé l'humanité, l'humanité pêche, ne respecte pas une règle, et la première chose qui arrive, c'est la colère. Première chose qui arrive dans la communauté qui est là, c'est la colère. Et cette colère amène à quoi ? Au meurtre. Il ne supporte pas son frère, tiens, qui allait à l'autel. Tiens, c'est dans le texte, quand tu vas à l'autel, puis que tu as quelque chose contre ton frère. Va d'abord régler ton problème avec lui, avant. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'on apprend par Caïn et Abel ? Ça, c'est très intéressant. Il ne dit pas, tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Il ne dit pas, tu as tort de te mettre en colère. Il lui dit quoi ? Domine sur ta colère. Le péché est tapis à ta porte, domine sur ta colère, et alors tu relèveras la tête. Et à mon avis, Jésus, quand il dit ça, tu ne tueras pas, ou alors qu'il dit, voilà, il ne faut pas te mettre en colère. En fait, à mon avis, il y a cette idée de Caïn et Abel. On est en train de recréer le peuple de Dieu. On est au début. Il repose les valeurs. Est-ce qui est le plus meurtrier dans une communauté ? C'est la colère. Puisqu'il le met en premier et que c'est la première chose qui est arrivée dans la Genèse. La colère. Et de nouveau, il ne dit pas de ne pas se mettre en colère. Il dit « domine sur elle ». Et comme j'ai dit, c'est intéressant de voir. Après, il dit l'autel, bah, ça nous référence à Caïn et Abel, ils allaient à l'autel. Et puis, il y a cette phrase qui est tellement claire qu'on ne sait pas quoi en faire. Si tu as quelque chose contre ton frère, avant d'aller devant Dieu, bah, va résoudre ton problème. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, ça. Mais c'est tellement compliqué à vivre. De résoudre d'abord nos problèmes horizontaux, relationnels, avant d'aller devant Dieu. Et prendre la scène comme nous l'allons faire tout à l'heure. Lui qui a tout pardonné, justement. Lui qui a aboli la colère, parce qu'il était en colère contre nous. Le deuxième, c'est cette fameuse question de l'adultère. Alors, je dirais encore peut-être une chose, pardon. La valeur forte du coup qui nous est demandée dans la justice sociale là-dedans, ben, c'est aimer son ennemi. Aimer envers et contre tout. Pour bien vivre ensemble, il ne faut pas rayer de la carte tous ceux que j'aime pas. Il y en a qui font comme ça. Pour bien vivre ensemble, il faut aimer même celui qui est quelque part, j'arrive pas, qui est, comment on dit, que j'ai de la haine. Ben non, tu dois l'aimer. Et ça, c'est la valeur forte qui nous est mise là-dedans. Donc avant de dire, ouf, j'ai pas dit imbécile, première question, est-ce que tu as aimé ton ennemi ? C'est ça la question de fond qui est posée dans ce texte. Et le deuxième, sur l'adultère et la répudiation, nouveau, je vais faire un petit passage par l'Ancien Testament en parlant de l'adultère. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on doit mettre dans la Guéhenne, l'œil et la main. Pourquoi l'œil ? Est-ce que ça fait référence à quelque chose dans l'Ancien Testament ? Il se passe quoi avec l'œil ? Là, plus possible, là encore possible. On voit. Et il y a deux péchés très importants dans la Bible qui arrivent à cause de l'œil. C'est l'entrée du péché dans le monde. La femme a vu, elle a eu envie, elle l'a pris avec la main. Et le deuxième péché assez important qui est arrivé avec la Bible, c'est un homme sur un balcon qui voit une jolie dame, il l'a vue. Il a envie, il la prend. Alors après, il va plus loin, lui, il tue, quoi. Donc, colère, meurtre, adultère, tout ça, ça va ensemble. Mais qu'est-ce qui est derrière ? C'est pas l'adultère en soi, sans dire que c'est juste ou faux. Non, non, la question, c'est comment tu gères ce que tu vois ? Est-ce que tu n'as pas ton œil ? C'est-à-dire tout ce que tu vois, tu dis, ah, c'est pas juste. Ah, justice. Ah, j'aimerais bien voir ça. Justice. Comment on gère notre œil et comment on gère après notre mise en action, la main qui est en lien avec cet œil. L'œil a permis au péché d'entrer dans le monde. L'œil a permis à David de vivre quelque chose d'abominable, jusqu'au meurtre. L'œil, c'est la porte d'entrée pour le péché. Alors comment je le sanctifie ? Comment je le prends soin, comment je purifie mon œil. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, je ne m'attarde pas tellement sur la répudiation, parce que, si je peux me permettre, de temps en temps, un peu d'ironie, ce qui me fait beaucoup rire avec cette répudiation, quand on lit l'histoire du christianisme, c'est qu'on en a fait une règle encore 6 fois plus compliquée, quoi. Alors, il s'est divorcé, il est marié avec quelqu'un, est-ce qu'il commet l'adultère ? C'est pas ça, la question qui est là-dedans. De nouveau, la question qui est là-dedans, à mon avis, il est en train d'aller titiller les pharisiens qui disent « C'est bien, vous respectez totalement la règle. » T'as le droit de répudier, oui, mais quand tu fais ça, finalement, ce qui te motive, c'est ton œil, c'est parce que tu la répudies, comme ça tu peux aller avec quelqu'un d'autre. Donc tu commets l'adultère. Donc il dit, en respectant ta règle, finalement, eh ben, tu fais pire après. Et de nouveau, je ne suis pas en train de dire que ces règles sont fausses, je suis juste en train de dire, il faut sans arrêt se poser la question, mais en fait, il y a quoi derrière ? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Sur quoi on doit vraiment travailler ? Et le cœur est fondamental. Et on voit que le mot cœur est quelque chose qui va revenir. Le cœur, siège des motivations, siège de l'intelligence, siège de notre identité. Tu es heureux, tu es sel et lumière, alors ce cœur, il faut le travailler. Ce cœur, c'est ce qui va faire qu'on est témoin. La valeur forte dans la répudiation et l'adultère, c'est quoi ? C'est la gratitude. Être reconnaissant de ce qu'on nous a donné, parce que c'est la justice de Dieu. Moi, peut-être je trouve injuste, mais je ne suis pas Dieu. Donc c'est sa justice. Dieu m'a donné ce dont j'avais besoin, car il est juste, alors pourquoi j'en veux plus ? C'est ça la question qui nous est posée, nous, dans notre société de consommation. Pourquoi en vouloir toujours plus ? Pour conclure, cette fois, j'ai fait 2 conclusions, cette fois, je conclue définitivement. À chaque fois que vous voyez quelqu'un mal agir selon vous, ou vous dites qu'il ne respecte pas les règles, ou est-ce que vraiment il peut être dans l'église parce que, rappelez-vous cette petite phrase de Jésus. Toi, tu dis que tu ne dois pas faire ça, mais moi, je te dis que. Et là, vous terminez par vous-même. Qu'est-ce qu'il vous dirait Jésus dans ce cas-là ? Ok, il n'y a pas la règle, mais moi, je te dis que. Je vais prier. Seigneur, à titre personnel, je trouve dur de prêcher sur ces textes. Ces textes tellement fondamentaux, qui vont nous chercher loin, parce qu'ils vont nous chercher dans notre cœur, sur qui nous sommes, sur notre péché, sur notre incapacité d'avoir ce cœur comme toi tu l'exiges. Et ça me rappelle qu'on a, en tout cas à titre personnel, j'ai profondément besoin de toi. Je te remercie pour ton pardon qui nous permet de continuer à être en relation avec toi alors que notre cœur n'est pas toujours parfait. Et je te demande alors qu'on ne s'arrête pas aux règles, mais qu'on se souvienne qui nous sommes à tes yeux, qu'on se souvienne des valeurs que tu veux qu'on vive et que les règles alors deviennent juste une manière de les appliquer, pas juste pour faire partie du groupe. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, merci pour ces textes. Mais aide-nous maintenant à savoir comment les mettre en pratique. Amen.